Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'homme a-t-il quelque chose de particulier à apporter à notre société, quelque chose de différent ? Grâce aux neurosciences et aux recherches particulières menées sur le chromosome Y, il est aujourd'hui possible d'affirmer que la gente masculine naît homme et le devient, et que les hommes ont toute leur place dans notre société, une certitude qui permet de tordre le cou aux théories du genre. Ce que l'homme doit à son chromosome Y, les révélations des neurosciences, c'est le titre du quatrième ouvrage de René Écochard, médecin, épidémiologiste et professeur émérite de l'université Claude Bernard à Lyon. Bonjour professeur.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes en duplex depuis Radio Espérance. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci aussi aux équipes de Radio Espérance. Professeur René Écochard, vous parlez du chromosome Y comme d'un cadeau. Pourquoi ?
Oui, c'est vraiment l'impression que j'ai eue à la suite de ce travail. C'est un long travail que j'ai fait pour essayer une sorte d'enquête. Et vraiment, chaque jour où je trouvais un nouvel article clarifiant la question, je ressentais que c'était un cadeau. En effet, si vous voulez, nous avons une commune humanité, hommes et femmes. Mmh. Et nous avons la plupart de nos chromosomes, c'est-à-dire des informations que nous recevons en naissant, en étant conçus, qui sont en commun. Comme une humanité. Mais il y a en plus ce chromosome Y qui en fait fonde biologiquement le masculin. Et donc l'objectif de cette enquête était de savoir mais qu'est-ce qu'apporte donc ce petit chromosome Y ? En effet, Y est tout petit. Il est tout petit, on se le passe de père en fils depuis des millions d'années. Et pour notre espèce depuis environ 1 million d'années, mais tous les mâles de l'univers se le transmettent de père en fils, ce qui fait que quelque part c'est progressivement au cours de l'évolution qu'il a abouti vraiment à recueillir en lui tout ce qui est commun et utile pour la masculinité et la paternité.
Alors nous allons voir ensemble justement tout ce que ce chromosome Y apporte à l'homme et ce qui permet à l'homme d'être défini comme personne masculine. Finalement, l'objectif de votre livre, c'est aussi de donner une sorte d'espoir ou de conforter l'homme dans sa place, dans la société.
Oui, en effet, si vous voulez, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a une richesse extraordinaire qui se révèle depuis quelques dizaines d'années sur la richesse qu'apporte la femme à notre société en étant libérée de tâches ménagères, si j'ose dire, omniprésentes dans le passé. Petit à petit, elle a su rentrer, apporter son concours et toute sa richesse à la société, de telle manière que les messieurs se disent « Mais et nous, qu'est-ce qu'on a de spécifique ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ?» Et en effet, la question est entière. Est-ce que finalement, être homme, c'est quelqu'un qui peut simplement avoir la barbe ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste un peu plus de muscles ? Ou bien est-ce que la nature, toute cette évolution de notre espèce et des espèces, a-t-elle prévu quelque chose, un apport particulier que nous pouvons faire pour la famille et la société.
Qu'est-ce qui définit, professeur René Écochard, qui est l'homme ?
Alors, en fait, pour savoir si le petit enfant qui naît est un garçon ou une fille, ce sont ses organes génitaux. C'est-à-dire, en fait, le sexe est biologiquement fondé sur la transmission de la vie.
Mais est-ce que ça suffit ?
C'est en effet la question, mais c'est bien ce qui définit un petit garçon. C'est-à-dire, si vous voulez, dans 4999 cas sur 5000 ou un peu plus, en regardant l'échographie où le petit bébé qui naît, on dit « Ah, c'est un petit gars » ou « C'est une petite fille ». C'est-à-dire, c'est bien, en somme, à la naissance ou sur l'échographie, sur les organes génitaux, qu'on sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et donc ça, c'est ce qui définit notre masculinité, notre féminité, notre place dans la transmission de la vie. Mais notre place dans la transmission de la vie ne se limite pas à faire des spermatozoïdes ou un ovule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout notre être. C'est vrai pour la femme, elle n'est pas que un ventre, elle est toute une personne avec toute la richesse qu'on lui découvre au cours de ces années, encore plus qu'avant, même si ça fait longtemps que les poètes, les artistes et les époux, j'espère, admirent la féminité. Mais disons que pour la masculinité, il en est de même. Cependant, il est nécessaire de redécouvrir la masculinité à un temps où ce n'est plus la force physique qui définit le masculin.
Vous écrivez justement, professeur René Cochard, « Mieux connaître Y, c'est mieux connaître l'homme ». Et vous affirmez dans votre ouvrage que le chromosome Y est un spécialiste, mais aussi un chef de chantier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il agit sur les autres chromosomes ?
Oui, c'est assez extraordinaire. Hein. Vous avez sans doute entendu parler de l'épigénétique, ce qui est en plus des gènes, si j'ose dire. Eh bien, de manière, les chromosomes sexuels, XX chez la femme et XY chez l'homme, orientent le travail de toute la cellule. C'est-à-dire qu'en fait, alors même que le chromosome Y a moins de 100 gènes actifs lui-même, eh bien, il fait travailler des milliers de gènes des autres chromosomes. À titre d'exemple, par exemple, dans le cerveau émotionnel, le cœur du cerveau émotionnel, l'amygdale cérébrale, eh bien, il y a plus de 2000 gènes qui travaillent différemment chez l'homme et chez la femme. Donc, toute la cellule obéit à sa nature masculine ou féminine. C'est pour ça que, alors qu'Y est tout petit, eh bien, cela lui suffit pour mettre au travail tout le monde. Il y a un autre exemple, si vous voulez. Un seul gène, le gène SRY, a fait fabriquer le testicule. Alors, il faut beaucoup de gènes. C'est comme toute une entreprise, un immense bâtiment, si vous voulez, fabriquer une immense usine, fabriquer un testicule. Eh bien, un seul gène a suffi pour le faire, comme un général, un chef de chantier, c'est le gène SRY. Et ainsi, vous voyez, toute notre vie de femme ou d'homme est sous l'éclairage, sous l'orientation de nos chromosomes sexuels, et pour ce qui est de l'homme, eh ben, de son fameux chromosome Y.
Et donc, ça agit non seulement sur des caractéristiques physiques, mais aussi psychiques.
Absolument, oui, oui, parce que, bien sûr, autrefois, on croyait que, on peut lire les travaux des années 70 ou 80 encore, des sociologues et des politologues fait dire ben, le corps est différent, mais on a le même cerveau. Et c'est un petit peu ce qui traîne dans les livres de classe maintenant, ou dans les sites des ministères, ou dans les médias. On laisse entendre de manière par erreur que, en fait, le cerveau est le même en naissant et que c'est la culture qui va nous façonner comme homme ou comme femme. Et donc, améliorons la culture, on aura de meilleurs individus. C'est totalement faux, en fait. Les scientifiques, surtout depuis les années 2000, découvrent chaque jour des caractéristiques, des richesses, en fait, des inclinations et des aptitudes plus développées chez la femme et d'autres plus développées chez l'homme. Donc, en somme, notre cerveau fonctionne spécifiquement pour la masculinité ou pour la féminité. Et pour la masculinité, il y a au moins trois zones du cerveau qui travaillent différemment et qui vont faire que l'homme a une vision du monde qui est propre à l'homme, a une manière d'agir qui lui est propre et une réaction, ses émotions qui lui est propre. Enfin, vous voyez, chacun de nous, homme ou femme, sont sans être des machines, hein, nous gardons notre liberté, mais nous avons en somme des forces en naissant qui sont plus spécifiques. L'un et l'autre est différent.
Est-ce que pour former le cerveau de l'homme, donc vous avez dit, professeur, qu'il y avait donc l'action du chromosome Y, mais il y a quand même aussi cette fameuse hormone de la testostérone. Comment ils interagissent et quelle est la part de chacun ?
C'est une très bonne question parce que finalement, on résume souvent la masculinité à la testostérone. La testostérone, c'est un peu le premier ministre, si vous voulez. Il travaille sous les ordres du chromosome Y. La testostérone est comme un bras actif de la masculinité. Et en effet, la testostérone est une richesse qui est développée, plus développée chez l'homme que chez la femme, même si la femme a grand besoin de sa testostérone. Pour commencer déjà simplement, que ce soit homme ou femme, On a besoin de la testostérone pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Le matin, les hommes ont 40% de plus de testostérone que le soir, comme pour le pousser dehors, pour qu'il parte au travail et dans la vie sociale. Et il est enclin, comme cela, par sa testostérone, à sortir de chez lui. Alors même qu'au contraire, quand, par exemple, un papa un petit bébé à la maison et une épouse qui vient d'accoucher, eh bien, la testostérone n'augmente pas le matin, comme pour l'aider à rester à la maison, à prendre soin de sa femme et du petit.
Ah,
donc, vous voyez, la testostérone est vraiment, contrairement à ce qu'on a cru ou dit que la testostérone, c'était l'hormone de l'agressivité, non, c'est l'hormone qui nous aide à relever les défis.
Et justement, puisque vous parlez de cette variation de la testostérone avant et après la naissance, en fait, vous dites que ça permet à l'homme d'être père, mais s'il n'arrive pas à s'engager pleinement, est-ce que le taux varie dans ce cas-là ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, plus si je suis papa et que j'ai des enfants à la maison, plus je m'occupe d'eux, plus mes aptitudes à être père se développent. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est que notre cerveau, c'est comme un muscle. Plus on fait d'exercices physiques, plus nos muscles se développent. Plus j'exerce ma paternité, plus je deviens père. Donc, en somme, comme souvent, la biologie est là pour nous aider. Elle ne nous dicte pas. L'être humain est essentiellement libre. Il n'agit pas par instinct. Mais être libre ne signifie pas qu'on n'a pas des inclinations propre à notre nature et des aptitudes particulières.
Oui.
Donc, voyez, pour ce qui est des enfants en particulier, enfin de la relation paternelle, l'agir va développer nos capacités.
Oui. Et puis, il y a aussi la culture qui participe au façonnement de notre âme. Vous avez évoqué la liberté en plus de la donnée biologique, mais il y a quand même aussi tout l'environnement.
Absolument. Et les scientifiques, notamment Robert Sapolsky, qui est un homme qui de la Stanford University, qui a travaillé toute sa vie sur cette question de l'agressivité, résume la chose en disant si on vit dans un climat machiste, la testostérone nous rend agressifs.
Ah.
Si on vit dans un climat, au contraire, qui vise au bien commun, à la délicatesse, eh bien, la testostérone rend plus généreux. Et il a été prouvé récemment qu'un homme qui vit dans un contexte bienfaisant, eh bien, est plus généreux en présence de testostérone. C'est impressionnant.
Ah oui, c'est fou ça. Oui, oui, oui. Vous écrivez aussi dans votre ouvrage, professeur René Cochard, que l'homme est davantage dans l'analyse que la femme, qui elle est plus dans l'émotion. C'est vrai qu'on connaît hein, ces difficultés pour l'homme à exprimer ses émotions. Est-ce que ça provient de son caractère ou est-ce que là encore, il y a une influence du chromosome Y ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'avère que c'est comme planifié, vous voyez. Cette particularité de différence et de complémentarité, du coup, entre l'homme et la femme est planifiée au sens de... On voit déjà cette différence s'écrire dès la vie intra-utérine, pendant qu'on se développe dans le ventre de notre maman. Si on est petite fille, on a les aptitudes nécessaires à l'empathie, à l'intuition se développe. Si on est petit garçon, au contraire, c'est les aptitudes et le goût pour l'analyse qui se développent et non pas pour l'intuition. C'est assez impressionnant. Et le cerveau du petit garçon, dans le ventre de sa maman, est cloisonné, au contraire, celui de la petite fille. On voit déjà que son activité est diffuse. C'est-à-dire que quand la petite fille pense, enfin, je ne sais pas si un petit bébé pense, mais le terme n'est pas exact, mais disons que son cerveau fonctionne dans le ventre de sa maman, eh bien, la petite fille met en jeu plusieurs, de nombreuses zones de son cerveau, et le petit garçon, c'est déjà très localisé. Et puis, au cours de la croissance, on voit la chose comme le trait devenir plus caricatural, et on voit les communications entre le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel se développer beaucoup chez la fille, et au contraire, chez le petit garçon, il y a plutôt un stop actif à trop de prise en compte de l'affectif au moment de la réflexion. C'est bien qu'on voit qu'on dépend vraiment l'un de l'autre, homme et femme. C'est que la femme peut être, grâce à ses dons peut tenir compte de l'émotionnel quand elle prend une décision, mais elle peut être complètement captée par ses émotions. L'homme, au contraire, lui, peut être tellement limité et cloisonné dans son, dans sa stratégie de réflexion qu'il oublie toute la dimension émotionnelle, éventuellement, hein, et ce n'est que par la rencontre et le partage de, des réflexions qu'on est vraiment riche des deux facettes de l'humanité, la facette féminine et la facette masculine.
Ce qui est fou, c'est que vous dites qu'en fait, il y a une cloison en fait, qui permet à l'homme de prendre de la, enfin, d'avoir une distance entre les émotions et la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment inscrit dans les gènes.
Tout à fait. C'est, en fait, si vous voulez, l'image que j'ai dans l'esprit, c'est qu'entre le cerveau émotionnel et rationnel, les femmes ont des autoroutes. Les hommes ont des routes de campagne. Et au moment de la décision, au moment où l'homme est challengé, sa testostérone augmente et vient encore couper les routes, ralentir le passage entre l'émotionnel et le rationnel pour l'aider à se centrer, vous voyez.
Oui, à se focaliser donc, sur la décision.
Voilà,
se
focaliser.
Fait.
Donc, ça a une part précieuse, à condition qu'on vive ensemble et qu'on partage. À ce moment-là, on est riche. Oui. Personne ne peut exceller, on ne peut pas exceller en tout au même moment. On ne peut pas être dans un entraînement de football et en même moment s'exercer au violon, si vous voulez, au chant. Hein. On est obligé, les êtres humains, nous sommes limités. Et ça, les scientifiques le remarquent de plus en plus. On a une horloge interne qui va à la vitesse qui est la sienne, pas plus vite. Et donc, on ne peut pas tout à la fois exceller en deux aspects différents. On a vraiment besoin les uns des autres.
Je vous propose que nous marquions une pause musicale et puis nous nous retrouvons juste après pour détailler tout ce qui fait un peu ce qu'on appelle les traits de caractère de l'homme et voir d'où ils prennent leur origine, d'où ils tirent leur origine. Nous allons écouter Vivre, interprété par Grégoire.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre, les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre, sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Ce que l'homme doit à son chromosome Y, les révélations des neurosciences, c'est le titre de l'ouvrage de René Écochard, médecin, épidémiologiste et professeur émérite de l'université Claude Bernard à Lyon. Professeur, Pouvez-vous nous parler de cette appétence qu'a l'homme pour les grands projets et en quoi le chromosome Y agit-il dans ce sens ?
Mais c'est vrai que l'homme, souvent, aime faire les choses en grand. Et ça, c'est à nouveau Robert Sapolsky qui a travaillé la chose. On aime bien faire les choses en grand. Et donc, personnellement, je me dis, c'est qu'en effet, j'ai lu beaucoup de vies de personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Notamment, je cite Andrei Sakharov dans le livre, parce qu'il m'a frappé dans cette attitude de grandeur. Grandeur, générosité, détachement, grandeur. Il y a, ceci existe tout autant pour l'homme que pour la femme, mais cependant l'inclination et l'aptitude de l'homme à le faire paraît biologiquement tout à fait développé et intéressant. Dès qu'on est petit enfant, les petits garçons s'intéressent plus à la globalité qu'au détail. Déjà là, c'est clair, les chercheurs, les sociologues et les éducateurs l'avaient bien démontré, et constaté et démontré. Le petit garçon, donc, s'intéresse plus à la globalité qu'au détail. Et ça va se développer ensuite au cours de sa vie. Et pendant le cycle féminin, qui est très hormonodépendant, eh bien, le goût pour les détails ou le goût pour la globalité varie. Chez la femme elle-même, comme pour nous montrer que oui, en effet, c'est bien hormono-organisé, si vous voulez. C'est, oui. La femme a un don pour les détails et un don donc pour prendre le temps de veiller à ce qui peut paraître un détail. Moi, en vous disant ça, je pense au souci que va avoir Isabelle, mon épouse, par exemple, pour qu'il y ait un beau bouquet de fleurs sur la table des gens qui sont venus manger hier à la maison. Et donc ça, c'est typiquement un don que je lui reconnais. Et donc l'homme est orienté vers la globalité. Mmh. Et puis, comme vous le dites, il a tendance à vouloir faire les choses en grand. Et donc, il peut faire de très grandes choses ou de très grandes bêtises, mais en général, il est poussé à faire les choses en grand. Et il s'avère que c'est la testostérone qui vient comme donner le dernier coup d'amplificateur. Et c'est vraiment étonnant. Cela a été prouvé même par des essais randomisés, c'est-à-dire que pendant des expériences scientifiques, soit on fait un spray nasal de testostérone, soit un spray nasal de placebo. Et bien, si c'est de la testostérone, voilà monsieur qui fait des choix grandioses, soit quand il joue aux cartes, il va mettre plus sur le tapis, ou quand il prend une décision, et bien, il va choisir l'option plus grande. Donc, en somme, la biologie, semble-t-il, a prévu que nous, les messieurs, nous aimions faire les choses plutôt en grand, au risque, bien sûr, d'oublier les détails. Une fois de plus, nous avons besoin de nos compagnes à nos côtés.
Et c'est justement cet exemple amusant que vous avez dans votre livre, avec ce projet qu'a l'homme de vouloir tout quitter pour monter une ferme biologique. Et il se confronte aux détails, justement, qui sont mis en avant pour son épouse.
Voilà, parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a un lieu où les détails, si vous voulez, s'accumulent dans notre cerveau. C'est-à-dire toutes les étapes pour atteindre un but s'écrivent dans notre amygdale cérébrale. Et il y a un âge d'ailleurs où les petits-enfants sont incapables de faire un projet à long terme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez les enfants. Et chez les petites filles...
C'est à quel âge à peu près ?
Ben, ça va dépendre de chaque enfant, hein. Comme tout ce qu'on dit est sujet à variabilité, mais oui. Ça peut, par exemple, jusqu'à 5 ans, le petit ne peut pas faire de projet pratiquement. Mm-hmm. Hein. Et progressivement, les petites filles commencent à pouvoir en faire à 6 ans, 7 ans, les voilà qui sont capables de faire des projets, d'anticiper, elles prévoient elles font leur devoir à l'avance, alors que les garçons vont le faire au dernier moment parce qu'ils sont tout à fait incapables biologiquement d'anticiper. Donc l'anticipation, chose qui est progressivement acquis, est développé de manière différente chez un garçon et chez une fille. Et dans l'amygdale cérébrale, il y a donc un lieu où toutes ces étapes s'écrivent. Et nous, les messieurs, nous sommes comme protégés contre la prise en compte de tous ces détails, comme si cela nous aidait à pouvoir nous lancer dans de grands projets, Bon, ben, on espère qu'on a quelqu'un à nos côtés qui va nous dire, mais tu es sûr, est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'il y aura à faire si on veut changer de ville, ou là, pour l'exemple que je donnais, qui est réel, eh bien, se lancer dans une ferme biologique, faire des légumes bio, on imagine ce que ça signifie, trouver le terrain, apprendre même le savoir-faire pour le faire, oui. Reconstruire, retrouver une nouvelle école pour les enfants, retrouver de nouveaux amis, etc. Eh bien, l'homme est comme aidé à pouvoir prendre ce genre de décision, alors même que quelqu'un devra lui dire, mais tu sais, il faut aussi qu'on pense à tout ce qu'il y a à faire.
Vous avez ouvert une petite parenthèse, professeur René Cachard, qui titille ma curiosité. Vous avez dit que même pour la femme, au cours de son cycle féminin, elle était plus ou moins attirée vers le global ou plus ou moins vers les détails. À quoi c'est dû, ça ? C'est aussi l'influence de la testostérone ?
Non. C'est en période fertile, la femme sous estrogène a un grand nombre de dons féminins qui sont comme mis en fleurs. C'est comme un printemps, si vous voulez, du cycle. Hein. Et donc, parmi ceux que les scientifiques notent, par exemple, la mémorisation émotionnelle est différente. La femme a des dons plus développés de mémoire émotionnelle au moment de sa période fertile. Mais il y a plein d'autres dons. Regardez, par exemple, la femme en période fertile a plus de goût pour le masculin, des traits bien masculins. Quand elle voit un visage, eh bien, s'ils sont avec des traits très masculins, eh bien, elle les apprécie plus en période fertile. Mais il y a encore plus fabuleux. Un chercheur a mis en évidence quelque chose d'assez remarquable. C'est-à-dire qu'en période fertile, sous l'effet de ses estrogènes, donc, la femme a aussi une protection contre les hommes à la langue bien pendue, vous savez, ces flatteurs qui viennent lui dire sa beauté.
Elle ne s'en laisse pas compter.
Elle ne s'en laisse pas compter grâce à un mécanisme qui se met en place
en période fertile. De vigilance, en fait.
De vigilance, vous voyez. Oui. Tout ça est extrêmement délicat, en fait. C'est des équilibres très, très délicats. Les messieurs, par exemple, ne font pas beaucoup de cadeaux. On a une sorte d'absence de motivation et de savoir-faire, du coup. Souvent, pour les cadeaux, on a beaucoup de mal. Ouais. Bon, on peut apprendre en tant que vieil époux, je peux confirmer
vous
qu'on peut apprendre.
Vous avez des idées maintenant.
Mais c'est plus difficile qu'à ma propre épouse, ça c'est sûr, ça ne se discute même pas. Et en fait, il a été montré que pendant la période post-ovulatoire du cycle, la femme, sous l'effet de la progestérone, l'hormone qu'elle a à ce moment-là, qui est nécessaire pour la grossesse, eh bien, elle est encline à faire des cadeaux. Ah. La femme a un temps de son cycle qui est comme une petite vaccination qui lui est faite, où chaque cycle, elle reçoit une sorte d'encouragement à faire des petits cadeaux à son entourage. Vous voyez, toutes ces choses absolument merveilleuses. Et l'homme, quand dit l'homme est stable, notamment, il est stable, ça est parfois nécessaire, mais il n'a surtout pas ces temps d'enrichissement de la personnalité variable, contrairement à la femme.
Et oui, c'est ça. Je voudrais qu'on parle de l'empathie et je voudrais repartir de cette citation de John Gray. Vous savez, cet homme qui a écrit « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », il écrit « Ce que les femmes reprochent le plus souvent aux hommes, c'est de ne pas les écouter. Ou bien l'homme ignore complètement la femme quand elle lui parle, ou bien, à peine a-t-elle prononcé quelques mots, qu'il croit savoir ce qui la tracasse et, chaussant les bottes de monsieur réponse à tout, lui suggère, tout fier de lui, une solution miracle pour régler son problème. » Évidemment, cette situation, elle fait rire et j'imagine que nos auditeurs vont sourire à l'écoute de ce cas d'école. Comment, professeur René Cachard, le chromosome Y influe sur l'empathie de l'homme ?
Oui, c'est ça. Nous n'avons pas la même empathie. Enfin, nous n'excellons pas dans la même empathie. Donc, redéfinissons un petit peu l'empathie. Oui. Il y a globalement deux facettes à l'empathie. L'empathie émotionnelle, c'est-à-dire je suis touché, mon cœur est touché par le besoin de l'autre, hein, et l'empathie cognitive, c'est-à-dire je comprends ce dont l'autre a besoin. C'est deux facettes différentes. Mmh. Je comprends qu'il est dans le besoin et ce dont il a besoin, et je suis touché, mon cœur est touché. Eh bien, l'excellence dans l'émotionnel est chez la femme. L'excellence dans le rationnel est chez l'homme. Sous-entendu, la première chose qui touche le cœur de la femme, la première chose qui touche la femme, c'est le fait que l'autre est dans le besoin. Mmh. Et ensuite, elle cherche que faire pour aider cette personne. Mais elle est d'abord touchée dans son cœur. Et puis son cerveau se met en route pour analyser. L'homme est tout de suite plutôt touché par le besoin lui-même, plus que par la souffrance de l'autre. Ce qui fait que quand un petit bébé se met à pleurer, enfin, c'est ce qu'a montré Ruth Feldman, quand le bébé se met à pleurer, le papa et la maman sont tous les deux mis en mouvement, mais la femme, c'est d'abord dans son cœur, « Oh, qu'est-ce qu'il a ce petit chou ?» Et elle cherche une solution, alors que le père, lui, c'est dans le bébé, mais de quoi il a besoin ?
Est-ce qu'il a sommeil ?
Voilà. Et après, bien sûr, il est ennuyé, mais il est d'abord dans la recherche d'une solution. Si bien que dans nos dialogues conjugaux, parfois c'est complexe, parce que notre épouse ou notre fille nous exprime tout simplement une souffrance et attend de nous que nous l'écoutions et que nous prenions en compte, en effet, cette souffrance, alors que nous, les messieurs, nous sommes agacés parce qu'en fait, nous ne voyons pas quelle solution proposer. Donc, s'il n'y a pas de solution proposée, tais-toi, quoi, quelque part. C'est un petit peu le risque, bien sûr. Et donc, c'est une fois qu'on sait ça, on peut en sourire, on peut même en rigoler, au sens où, évidemment, face à quelqu'un qui est dans le besoin, il y a tout à la fois besoin d'accueillir la souffrance et puis de chercher une solution. Les deux sont nécessaires. Et une fois de plus, ensemble, c'est mieux.
Ça se complète, oui, oui. Vous écrivez, professeur, que l'empathie est innée. Comment elle se développe au cours de la vie ?
Oui, elle est innée, en fait. Vous savez, elle est innée et... regardez, les petits-enfants se mettent déjà à pleurer. Si un petit bébé pleure à la crèche dans une maternité, ça y est, c'est parti, c'est la symphonie. Donc, dans une maternité, si un bébé pleure, on essaie tout de suite de le calmer parce qu'on se dit, ça y est, on en a pour une heure, tout le monde va pleurer. Donc, l'empathie est naturelle, en fait. Et l'empathie n'est pas limitée aux êtres humains. L'empathie est observée chez un grand nombre d'espèces. C'est même indispensable à la survie de l'espèce, des espèces. Et donc, ça s'est mis en place depuis très, très longtemps dans les espèces, cette mobilisation pour sortir de soi, en fait. On est encouragé à sortir de nous et c'est merveilleux. Donc, en pratique, si vous voulez, en somme, c'est inné, mais on va, par l'éducation, accompagner, parce que ce n'est pas parce que la souffrance de l'autre, je la connais, elle me touche, que je vais être généreux. Oui. Au contraire, parfois, si je vois trop de souffrance sur un documentaire, je ne sais pas moi, du Sahel, eh bien, je ne regarderai plus de documentaire du Sahel et puis c'est tout, parce que ça me fait souffrir. Ça ne va pas mettre ma main au portefeuille ou me faire choisir des décisions politiques. Donc, parce que le risque, c'est de fuir devant la souffrance. Et donc, d'où la nécessité d'éducation. Mais cette éducation ne doit pas se tromper. Et notamment, il faut vraiment magnifier les deux types d'empathie, émotionnelle et rationnelle, et magnifier les dons féminins, oui, mais aussi masculins. Et ça nous invite, il me semble, à changer la perspective dans les écoles. En ce moment, dans les écoles, on fait quelque chose d'assez extraordinaire. On aide les enfants à découvrir les émotions.
Oui, c'est
superbe.
Vrai.
C'est superbe, c'est vraiment un acquis. Oui, mais il n'y a pas que ça. Sinon, la nature n'aurait pas prévu de messieurs sur la terre, il n'y aurait que des dames. Oui. C'est qu'en fait, si vous voulez, il faut tout à la fois développer les dons féminins et développer les dons masculins. Et ne pas imposer à tout le monde d'être homme ou femme uniquement. Non, simplement, on a reçu tout ce que la nature a prévu pour nous. On excelle en cela ou en cela. Chacun est différent. Et il convient de muscler nos propres aptitudes et d'apprendre à discerner face à nos inclinations. Mais il faut bien se protéger contre toute tendance d'uniformisation. Il est bon de, et je pense que c'est peut-être un rôle de ce livre, c'est de montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été données à la nature et qui le sont par les hommes. Et il faut qu'on prépare les garçons à cet horizon d'homme, peut-être d'époux, peut-être de père, au service de, non seulement d'eux-mêmes, mais de la famille et de la société.
Vous écrivez, professeur, « Deux petits noyaux gris de la base du cerveau sont dédiés à l'émerveillement de l'homme devant la beauté de la femme. » Qu'est-ce que cela implique ?
Oui, c'est ça, c'est absolument
fou,
extraordinaire.
quand
Hein. Et donc, alors, bien sûr, les études, c'est chez l'homme que ça a été découvert en premier, chez l'être humain. Mais ensuite, les chercheurs se sont lancés à rechercher la même chose chez les animaux, chez les mammifères, parce que tous les mammifères mâles sont attirés par les femelles. L'attraction est nécessaire, sinon il n'y aurait pas de transmission de la vie. Donc l'attraction des mâles pour les femelles et des femelles pour les mâles est tout simplement la condition sine qua non de survie d'une espèce, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai pour nous. Et je vais d'abord dire chez l'animal, parce que l'animal s'est prêté à des expériences. Chez l'homme, c'est plus délicat, on observe avec délicatesse. Chez plusieurs espèces animales, on a pu voir que pendant les premières semaines du développement du petit après la naissance, qu'on appelle la mini-puberté, hein, les premières semaines, eh bien, ces noyaux se développent et ils donnent le goût donc au petit mâle, ils donnent le goût pour la présence féminine ou femelle. Et je pense chez certaines expérimentations qui ont été faites aux États-Unis, eh bien, les petits mâles, on cote leur plaisir à être auprès des femelles. Ça n'est pas qu'une dimension génitale ou sexuelle, c'est le plaisir de découvrir, d'être en présence de la féminité. Et pour nous, les hommes, ce goût que nous avons de la présence féminine, nous le recevons biologiquement et probablement en partie au moins importante. Cela est écrit dans ces petits noyaux qui se sont développés à la fin de la grossesse et peut-être aussi les premières semaines de notre vie pendant la mini-puberté.
Et vous dites effectivement que dans le cerveau, il y a des réseaux spécialement dédiés à l'amour romantique. Donc ça complète ce que vous venez de nous expliquer.
Tout à fait. On le sait, le sentiment amoureux, c'est absolument incroyable. On est complètement transformé, on est complètement emporté, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, c'est pas une invention culturelle. C'est quelque part nécessaire pour que chaque espèce se développe. Et nous, il est bon, le sentiment amoureux est en effet un support biologique qu'on connaît maintenant. Et puis, celui qui établit l'élu de mon cœur, c'est-à-dire que l'élu de mon cœur, c'est quelque chose qui est biologiquement écrit, et notamment lors des premières unions sexuelles, s'écrit en nous, dans notre cerveau, c'est elle ou c'est lui. Et donc
c'est le phénomène de l'attachement, en fait.
De l'attachement, oui. Voilà. Et l'attachement premier, si vous voulez, il est avec une élection, sous-entendu, c'est lui, c'est pas les autres. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va permettre à partir de ce moment-là à celui-ci ou à celle-là, selon on est femme ou homme, eh bien, d'approcher notre intimité. Et cette potentielle fidélité va être entretenue par les unions sexuelles qui comme une vaccination qui remarque l'immunité, eh bien là, c'est l'inverse d'une vaccination qui marque le fait de l'autorisation de cet autre d'être très proche de soi et ce goût progressivement qui se développe. Il y a un lien très fort avec la dopamine à cet endroit.
Oui.
Il y a deux grands, enfin, il y a même trois grands médiateurs. Il y a l'ocytocine qui est le médiateur de l'attachement. Il y a donc la dopamine qui est le neuromédiateur de la récompense. Mmh. Et puis il y a la prolactine, le neuromédiateur du désir de prendre soin. Et le vrai amour, c'est un amour qui prend soin.
Oui, c'est ça. Une dernière question, professeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les neurosciences permettent de mieux comprendre les particularités de l'homme et de la femme. Vous êtes vous-même père et grand-père. Quels conseils pourriez-vous donner aux parents qui nous écoutent pour éduquer leur fils dans une juste compréhension de leur masculinité?
Là, donc, comme vous me posez une question qui est humaine, je réponds avec simplicité. Je pense que la première chose, je pense, c'est de découvrir avec admiration ce que la nature a placé en l'homme. Et donc, le découvrant, le révéler progressivement par ma manière d'être, de révéler à moi-même, déjà en prendre mieux conscience comme père ou grand-père, mieux savoir en parler et honorer la masculinité et mieux savoir guider le petit gars. Parce que, vous voyez, le petit gars, il est comme la petite fille de son côté. Il a des inclinations fortes. Par exemple, on disait à s'émerveiller devant la féminité. Mmh. Eh bien, c'est apprendre à prendre soin, et j'espère que je l'ai fait pour mon propre fils, mais je crois, c'est-à-dire, quand on aime, qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est prendre soin, le projet de prendre soin et donc de fidélité. Donc l'éducation, c'est une éducation à la maîtrise de soi pour devenir libre, une maîtrise de cette énergie qu'on a en nous qui est tellement bienfaisante, et non pas lutter contre notre nature, bien au contraire. Oui. C'est au contraire développer ce qu'on reçoit par notre nature.
Merci beaucoup, professeur René Cochard. Je rappelle le titre de votre livre, « Ce que l'homme doit à son chromosome Y, les révélations des neurosciences » aux éditions Arthège. Merci aux équipes de Radio Espérance, sans qui ce duplex n'aurait pu avoir lieu. Un grand merci.
Merci Isabelle. Thank you.